D'abord, je me permets d'exprimer mes remerciements exceptionnels aux mesdames et messieurs les députés français et japonaises ici présents et tout ce qui a contribué à organiser ce colloque très prestigieux. Et puis, je suis très honoré pour avoir l'occasion de communication aujourd'hui, le 4 octobre, date de naissance de la Constitution de la 5e République. Bon, on commence. Avant de discuter le fond de mon intervention, force et faiblesse de la Constitution japonaise, je vais parler du contexte général de la Constitution japonaise. Donc, dans la seconde moitié du 19e siècle, le Japon a ouvert des relations diplomatiques avec les pays occidentaux, puis développé rapidement un système juridique moderne pour se métamorphoser en État moderne. En ce qui concerne la Constitution, après une période de préparation minutieuse, la Constitution de l'Empire du Japon, soi-disant Constitution de Meiji, a été promulguée en 1889. C'est la première constitution de style occidental en Orient. L'établissement de la constitution de Meiji est important dans l'histoire du monde en tant qu'exemple précoce de l'élargissement de l'idée de constitution occidentale sur les pays non occidentaux. Cependant, la conception de l'empereur Lu Tenno en japonais c'est un principe unique au Japon. L'ascendance de l'empereur remonte sans interruption jusqu'à l'ère mythique et l'empereur est considéré comme un dieu. La mesure dans laquelle cette conception de l'empereur est mise en avant varie selon les époques, mais à l'ère de la guerre des années 30 et du début des années 40, l'idéologie de l'empereur divin était extrêmement mise en valeur pour servir à la mobilisation générale du peuple à la guerre. On continue à expliquer un peu plus de la Constitution Meiji. La Constitution Meiji a établi un parlement composé des membres élus, mais son autorité n'était pas suffisante. Par exemple, même si le régime parlementaire a été pratiqué pour certaines périodes, il n'est pas établi expressément dans le texte. En outre, le contrôle gouvernemental et parlementaire sur les armées était tout à fait insuffisant, ce qui a apporté la montée du militarisme dans les années 30. En août 1945, le Japon accepta la déclaration de Potsdam, se rendit aux Alliés. À la différence du cas de l'Allemagne, le Japon a été placé sous l'occupation indirecte. Donc, le quartier général des Alliés, le GHQ en anglais, gouverné par l'intermédiaire du gouvernement japonais. Sous la direction directe des Alliés, les efforts majeurs se sont réalisés dans divers domaines politiques, sociaux et économiques. Pour une nouvelle constitution, c'est le quartier général qui a présenté un avant-projet au gouvernement japonais qui a négocié avec lui et a souhaité repousser certaines dispositions qui étaient trop radicales pour ses yeux. Cependant, c'est évidemment l'idée du quartier général qui a gagné. Ainsi, la Constitution japonaise a été promulguée en novembre 1946. La plus grande question liée à la rédaction de la nouvelle constitution était de savoir s'il fallait admettre le régime de l'empereur. L'empereur serait responsable de la guerre et devrait être enlevé. En fait, certains pays des Alliés ont vu l'idéologie de l'empereur divin derrière le militarisme. Cependant, l'abolition du régime de l'empereur n'a pas été acceptée par les États-Unis et il a été finalement maintenu dans la nouvelle constitution de 1946. Cependant, le statut de l'empereur a radicalement changé. Comme mentionné ci-dessus, l'empereur était le souverain sous la constitution de Meiji. Mais dans la constitution de 1946, l'empereur était le symbole de l'État japonais et de l'intégration du peuple japonais et n'avait aucun pouvoir politique. La souveraineté nationale a été déclarée au lieu de la souveraineté impériale. Aussi important était la question du pacifisme énoncée par l'article 9 de la constitution. le quartier général des Alliés a initialement indiqué l'idée que le Japon renoncerait même à une guerre de légitime défense, mais c'est finalement devenu la disposition suivante. Voilà le texte de l'article 9. Aspirant essentiellement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu'à la menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes ou autres potentiels de guerre. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu. Cet article 9 deviendra alors le principal sujet de controverse concernant l'interprétation de l'article de la Constitution. En outre, l'opposition entre les forces politiques sur l'interprétation de l'article 9 est devenue un facteur majeur du paysage politique de l'après-guerre. Ce point sera abordé plus tard. En outre, la Constitution de 1946 contient une charte des droits fondamentaux fondée sur l'idée de droit naturel et adopte le contrôle de constitutionnalité des lois de type américain pour renforcer la protection des droits fondamentaux. Depuis lors, la Constitution n'a jamais été révisée pendant plus de 70 ans. C'est très rare dans les autres pays et constitue un trait distinctif de la Constitution du Japon. On pourrait dire qu'elle résiste très bien aux faces du temps. Si l'on penche sur l'histoire de la Constitution japonaise pendant plus de 70 ans, il convient de souligner que les forces de la Constitution japonaise sont démontrées par le fait qu'elle fait l'objet de consensus national en tant qu'un idéal. D'autre part, son importance en tant que norme juridique régissant l'acte de puissance publique n'est pas pleinement démontrée, ce qui constitue un point faible. Donc on va entrer dans les forces de la Constitution japonaise. Les forces de la Constitution japonaise résident dans un aspect philosophique. Du point de vue du droit comparé, la Constitution du Japon est une des constitutions les plus lapidaires dans le monde. Je ne sais pas si on a suivi le mot de Napoléon, mais elle présente un aspect important de la présentation des principes et des idées dans la politique nationale plutôt qu'une règle concrète restreignant les pouvoirs publics. Ce point est particulièrement décrit dans le régime de l'empereur symbolique et du pacifisme. Donc, premièrement, le régime de l'empereur symbolique. L'article 1, de la Constitution première japonaise dispose comme suit. L'empereur est le symbole de l'État et de l'unité du peuple. Il doit ses fonctions à la volonté du peuple en qui réside le pouvoir souverain. Et puis l'article 4 stipule comme suit. L'empereur ne peut exercer que les seules fonctions prévues par la présente Constitution en matière de représentation de l'État. Il n'a pas de pouvoir de gouvernement. Contrairement à la Constitution de Meiji, l'empereur n'est plus un souverain, mais un symbole et n'a aucun pouvoir substantiel. Un contrôle strict du gouvernement s'exerce sur les actes même rituels de l'empereur. De cette manière, la Constitution du Japon maintient le régime de l'empereur sous la haute vigilance contre la résurgence de l'idéologie de l'empereur souverain d'avant-guerre. Un tel régime de l'empereur symbolique est largement accepté par le peuple. Dans la période qui a immédiatement suivi l'établissement de la Constitution, le maintien du régime de l'empereur au milieu de changements majeurs sociale et de confusion après la défaite aurait grandement contribué à stabiliser l'esprit du peuple japonais. Depuis lors, le régime de l'empereur symbolique a été largement accepté comme une manifestation de la singularité d'un pays de tradition comme le Japon. Bien sûr, certains gens accusent l'empereur de sa responsabilité de guerre, de la guerre d'invasion, mais ils sont peu nombreux. À propos, que signifie exactement le rôle de l'empereur en tant que symbole? Il y a un débat très intéressant à cet égard récemment. En 2016, L'empereur de l'époque avait annoncé son intention de se retirer du trône en raison de la difficulté accrue à remplir de ses obligations publiques pour la raison de son âge. Il avait alors 82 ans. À ce moment, il a décrit le rôle de l'empereur en tant que symbole comme suit. J'ai considéré que le premier et le plus important devoir de l'empereur était de prier pour la paix et le bonheur de tout le monde. Mais il est aussi important d'écouter les voix du peuple et d'être proche de leurs sentiments dans certains cas. En d'autres termes, en plus de prier pour le pays et le peuple, le rôle de symbole était d'être proche des personnes en situation difficile, ce qui est particulièrement démontré par le fait qu'il a fait beaucoup de visites de zones sinistrées, y compris Fukushima. En revanche, certains auteurs conservateurs ont fait valoir que le rôle de l'empereur était de servir Dieu et de prier, et qu'il n'était pas autorisé à abandonner le trône au motif qu'il ne pourrait plus faire des visites locales. Mais la majorité du peuple ont soutenu l'idée de l'empereur. En fait, l'idée qui limite le rôle de l'empereur à prier est appropriée pour le régime de l'empereur sous la constitution de Meiji, mais pas pour le régime sous la souveraineté nationale. Ensuite, le pacifisme. En ce qui concerne le pacifisme, la constitution japonaise y fait référence au préambule et à l'article 9. Le peuple japonais a fortement soutenu le pacifisme comme un idéal. En réalité, cependant, le Japon a signé un traité de sécurité entre le Japon et les États-Unis et fourni des bases militaires à l'armée américaine. Le Japon lui-même est de nouveau armé depuis 1951 et les forces d'autodéfense FAD actuelles est devenue l'une des grandes forces militaires du monde. Le budget de la défense du Japon est le 9e dans le monde. Si on lit à la lettre l'article 9 de la Constitution, il semblerait que cet article interdit toutes les forces militaires, ce qui est bien contrarié par la réalité dont on a parlé tout à l'heure. Par conséquent, comment examiner la contradiction entre le texte de l'article 9 et la réalité est devenue une question majeure dans la politique d'après-guerre. Depuis quelques années, le premier ministre actuel, Shinzo Abe, a lancé un mouvement visant à réviser l'article 9 et à inscrire les forces d'autodéfense dans le texte pour mettre fin à la controverse sur sa constitutionnalité. Cependant, de nombreux citoyens ne croient pas que les FAD et le traité de sécurité nippo-américain violent la Constitution. Dans l'opinion publique, les FAD devraient se concentrer sur leur rôle de répondre aux attaques militaires contre le pays et ne doivent pas s'engager dans des conflits armés outre-mer. En particulier, il existe une forte opinion contre la participation à des opérations militaires initiées par les États-Unis. Finalement, le public a accepté l'existence des FAD sans montrer l'intérêt sur le débat constitutionnel très technique sur sa constitutionnalité et s'engage fermement en faveur de l'idéal du pacifisme. C'est dans ce sens-là que l'aspect idéologique du pacifisme de la constitution japonaise est très ancré dans l'opinion publique. Et puis, on passe aux faiblesses de la constitution japonaise. Comme mentionné ci-dessus, la constitution du Japon est une constitution très lapidaire. Son texte compte environ 5 000 mots, alors que la constitution française, environ 10 000 mots. Il s'agit de l'une des constitutions les plus courtes au monde. Par conséquent, si on exagère un peu, la constitution japonaise est plutôt un texte présentant les principes et les idées fondamentaux du pays que les règles précises qui restreignent les actes des pouvoirs publics. C'est un peu exagéré, mais quand même. Ce qui le démontre excellemment, c'est une extrême prudence de la Cour suprême, responsable de contrôle de constitutionnalité des lois. Pendant plus de 70 ans de son existence, la Cour suprême a jugé que les dispositions de la loi étaient inconstitutionnelles dans seulement 10 cas. 10 cas en 70 ans. Évidemment, c'est le nombre extrêmement faible comparé au Conseil constitutionnel français ou aux autres cours constitutionnels européens. Voici deux exemples qui illustrent clairement la prudence de la Cour suprême. La première est la théorie de l'acte du gouvernement utilisée dans une grande décision de 1959 où la constitution du traité de sécurité américano-japonais était en cause. Dans ce cas-là, la Cour suprême a décidé que le traité de sécurité entre le Japon et les États-Unis était hautement politique et qu'il ne serait pas examiné par la Cour, à moins qu'il ne soit manifestement inconstitutionnel. Cela constitue une raison pour laquelle il est très difficile pour la Cour de se prononcer sur le point de savoir si la loi sur les FAD soit contraire à l'article 9 de la Constitution. J'ajoute que cette théorie de l'acte du gouvernement de la Cour suprême s'est inspirée de la jurisprudence du Conseil d'État français. L'autre exemple est une tendance à surestimer la marge d'appréciation du législateur. Il existe de nombreux exemples de cela. Ainsi, dans une décision de 2015 sur la constitutionnalité d'une disposition du Code civil, la Cour suprême a décidé qu'il relevait du marge d'appréciation du législateur d'exiger que les couples mariés portent le même nombre de familles et il n'est pas contraire au principe de l'égalité homme-femme. Pour quelle raison la Cour suprême a-t-elle tendance à respecter le législateur? Au Japon, l'indépendance de la justice est maintenue et le gouvernement n'y interfère pas ouvertement. Cependant, il faut remarquer que la nomination des juges de la Cour suprême manque de diversité politique parce que le gouvernement est toujours porté par le parti conservateur sans alternance politique. En outre, le dialogue entre la Cour suprême et la doctrine constitutionnelle ne fonctionne pas pleinement pour la raison que la plupart des constitutionnalistes sont considérés comme appartenant à la gauche politique. Ce manque de dialogue aurait pour conséquence une pénurie de ressources intellectuelles pour que la Cour suprême rende une décision audacieuse. De cette manière, si la Constitution japonaise ne fonctionne pas suffisamment en tant que règle précise limitant les actes des pouvoirs publics, ce n'est pas uniquement en raison de l'insuffisance des dispositions de la Constitution, mais également en raison du manque de l'alternance politique. La racine du problème est donc très profonde. Ces faiblesses n'ont pas apporté des conséquences graves, car grâce aux bureaucraties très fortes, des lois manifestement irrationnelles n'ont pas été votées, si on voit globalement. Cependant, depuis les années 90, le système électoral a été transformé en un système majoritaire et le pouvoir du gouvernement et du Premier ministre a été renforcé, largement renforcé par les lois. Depuis lors, le leadership de la politique et du Premier ministre est clairement renforcé au détriment du bureaucratie. Ainsi, en 2014, il y a eu un cas dans lequel l'interprétation officielle de l'article 9, qui a été maintenu pendant de nombreuses années, a été modifié à l'initiative du Premier ministre Shinzo Abe pour permettre la légitime défense soi-disant collective. Cela a été scandaleux pour la plupart des constitutionnalistes et les citoyens de gauche. Un tel changement de situation nous fait pressentir fortement la nécessité de la Constitution avec plus de normativité. Cette question de plus de normativité constitutionnelle deviendrait plus importante dans les débats à venir sur la Constitution. À cet égard, le cas français mérite d'être examiné. Car en France, la Constitution de la Ve République, qui a conféré un pouvoir extraordinaire à l'exécutif, a été progressivement révisée pour renforcer le pouvoir contrôle du Parlement et du Conseil constitutionnel. Voilà, c'est la fin de mon intervention. Je veux remercier votre attention. Merci.